Une grande partie de la souffrance des enfants n'a pas de raison et pourrait être évitée. Nous nous justifions en disant que nous n'avons pas assez d'argent pour sauver les enfants. Laissons les lâches dire que c'est impossible. Qui est cette femme qui parle ainsi, aujourd'hui quasiment inconnue, qui, par sa persévérance, a tenté d'améliorer le sort des enfants ? Elle s'appelle Eglantine Jebb. Elle est née en 1876 en Angleterre, dans une famille de propriétaires terriens prospères. Issue de la meilleure société britannique, son père est plus que réticent à l'idée de voir ses filles étudier à l'université. Sa tante obtient cependant pour Eglantine qu'elle puisse étudier à Oxford. Elle y étudie l'histoire et prend la ferme décision de donner sa vie aux plus pauvres. À l'issue de ses études, elle se lance dans l'enseignement et découvre la pauvreté. Bien que sa santé l'oblige à arrêter sa carrière, cette expérience la poussera à défendre la cause des enfants. Ainsi, à peine soignée, elle s'investit dans une société de bienfaisance à Cambridge. En 1913, elle doit se rendre dans les Balkans. Elle fait alors l'expérience des conflits liés non seulement aux problèmes des nationalités, mais aussi aux divergences religieuses qui conduisent à de tragiques déplacements de populations civiles. Eglantine Jebb, à son retour, pense qu'il est indispensable d'assister les populations civiles et surtout les enfants et leurs mères, tant leur vulnérabilité lui semble évidente. Comme l'écrira Georges Bernard Shaw, grand défenseur du projet d'Eglantine, « Je ne connais pas d'ennemis de moins de 7 ans ». Profondément pacifiste, elle ne manque aucune occasion pour dénoncer la barbarie de toute guerre. 1918 et l'armistice ne marquent en aucun cas la fin du cauchemar pour les enfants d'Europe confrontés à la famine et à la maladie. Bouleversés par tant de souffrances, Eglantine Jebb et sa sœur lancent un comité de lutte contre la famine. Rapidement, des mouvements analogues naissent en Suisse, en Suède, en France, et se rallient à ce comité qui étend son action au secours des enfants. C'est ainsi que le Save the Children Fund, créé en Grande-Bretagne, se ramifie et se structure autour de l'Union internationale de secours aux enfants. La réussite est au rendez-vous, les églises anglicanes, romaines, suisses soutiennent Eglantine. Le pape Benoît XV va jusqu'à adresser au monde entier une encyclique dans laquelle il rend hommage à l'Union internationale de secours aux enfants. À partir de 1923, le nombre d'enfants secourus diminue à mesure que les conditions de vie en Europe s'améliorent. L'urgence est alors dépassée, mais il apparaît nécessaire de fixer une fois pour toutes des principes internationaux intangibles garantissant le droit des enfants. La tradition veut que ce soit lors d'une promenade au Salève, près de Genève, que les 5 points suivants s'imposèrent à Eglantine Jebb. L'enfant doit être mis en mesure de se développer d'une façon normale, matériellement et spirituellement. L'enfant qui a faim doit être nourri. L'enfant doit être le premier à recevoir des secours en temps de détresse. L'enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit être protégé contre toute exploitation. L'enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être mises au service de ses frères. Ces principes sont approuvés à l'unanimité. À partir de 1924, l'activité d'Eglantine s'intensifie alors que son état de santé, toujours des plus incertains, lui commande de se ménager. En 1925, l'Union internationale de secours aux enfants organise à Genève le premier congrès général de l'enfant qui réunit plus d'un millier de participants venus de 43 pays différents. En 1928, l'Union internationale cherche à étendre son action en Asie, en Afrique. Mais celle à qui on doit de pouvoir dire aujourd'hui comme une évidence « les enfants et les jeunes ont des droits » s'éteint le 17 décembre 1928.